On a parlé toute la semaine de ce nouveau virus, le coronavirus en Chine. Déjà plusieurs morts. On est rendu avec deux personnes en Amérique du Nord qui auraient possiblement le virus. Et c'est bizarre parce que la même semaine, aujourd'hui même, à Québec, il y a une annonce d'un laboratoire de confinement de niveau 3. Et on vient d'apprendre ces dernières heures qu'il y a 40 millions de personnes en Chine qui ont été mises en quarantaine, donc en confinement. Et pour en discuter, on va aller joindre à l'instant le docteur Guy Boivin, qui est microbiologiste, infectiologue et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les virus influenza. Docteur Boivin, bonjour.
Bonjour, Monsieur Duhaime.
Donc, aujourd'hui, le CHU à Québec a inauguré un laboratoire de recherche pour le traitement de maladies rares, comme par exemple le coronavirus chinois, si j'ai bien compris.
Oui, mais croyez-le ou non, c'est vraiment un hasard. C'est pas organisé avec le gars des vues. Nous, on travaillait depuis longtemps sur la mise sur pied d'un laboratoire de niveau de confinement 3 pour les pathogènes émergents et dangereux qui se transmettent par voie respiratoire, dont ceux de la grippe aviaire, ceux des coronavirus, etc. Et on avait décidé de la date de l'inauguration, ça fait 2 mois. Avant le premier cas de coronavirus qui a été rapporté vers la mi-décembre. Mais là, cette épidémie-là nous montre que l'importance d'avoir un tel laboratoire.
Mais c'est quoi le laboratoire? Décrivez-moi physiquement d'abord à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que c'est précisément?
Ça ressemble à un laboratoire ordinaire.
Okay.
Donc avec des hottes, avec des microscopes, avec des pipettes, etc. Sauf il y a quand même quelques différences majeures, comme vous pouvez vous en douter. Premièrement, la pression est négative. Le système de ventilation est organisé de sorte qu'il n'y a rien qui sort du laboratoire.
Fait que l'air, elle rentre, mais elle sort pas.
C'est ça. Puis ce qui finit par sortir, c'est filtré par des filtres puissants. Donc, c'est dénué de tout micro-organisme qui finit par sortir. Donc, ça, c'est la plus grosse différence avec un laboratoire ordinaire, de niveau de confinement 2, comme on l'a actuellement. Aussi, les opérateurs doivent se mettre des combinaisons. Pour manipuler le virus.
Ça, c'est comme les jaquettes quand on va à l'hôpital parce que quelqu'un a l'influenza?
Non, c'est plus que les jaquettes. Là. C'est vraiment des combinaisons qui couvrent toute la tête, le visage, le corps.
Et puis, comme un astronaute, là.
Effectivement, avec sa propre réserve d'oxygène. Et puis, quand on sort du laboratoire, il faut non seulement se dévêtir, mais prendre une douche. Alors, c'est quand même sérieux comme procédure, là.
Là, je veux juste comprendre, ça voudrait dire, par exemple, si quelqu'un, s'il y a un cas d'un matin de quelqu'un qui a visité la Chine ces dernières semaines puis qui aurait des symptômes du coronavirus, vous pourriez le confiner dans un laboratoire comme celui-là pour l'examiner et tout?
Non, c'est pas pour les patients. C'est vraiment pour la recherche.
Okay.
La recherche de base sur le virus, c'est-à-dire trouver...
Mais vous pourriez pas faire des recherches sur un patient qui est infecté, là?
Non, on n'a pas d'hébergement de patients. On peut avoir d'hébergement de modèles animaux, mais pas de patients comme tels.
Des animaux,
alors,
mais pas des
nous,
humains.
Alors nous, ce qu'on va faire, ce qu'on compte faire, c'est développer des tests diagnostiques, des traitements comme des antiviraux, qui sont des antibiotiques, comme des antibiotiques, mais pour les virus, on appelle ça des antiviraux, et ultimement, développement de vaccins.
Okay.
Alors ça demande tout un travail en laboratoire qu'on appelle in vitro et chez l'animal.
Parce que là, il faut comprendre que le coronavirus, un des problèmes, c'est qu'on n'a pas de traitement contre ça. Est-ce que vous allez faire des recherches, notamment sur le coronavirus, pour essayer de trouver un remède, pour essayer de trouver quelque chose pour contrecarrer?
Écoutez, notre priorité, il y a 2-3 semaines de ça, c'était plutôt de travailler sur la grippe aviaire. Les virus d'influenza à potentiel pandémique, H5N1, H7N9. Donc, mais là, avec l'actualité, là... avec l'épidémie de coronavirus provenant de Chine,
oui.
Ben, nos priorités vont probablement être revisées. Il faut reviser ça régulièrement parce que les priorités d'hier ne sont pas nécessairement celles de demain.
Okay.
Effectivement. On se propose de travailler avec ce coronavirus-là.
J'ai une question d'un auditeur qui est très pertinente. Il dit, moi, là, je suis un facteur, OK? Dis-moi, puis mes collègues, on manipule beaucoup, beaucoup, beaucoup de colis qui arrivent de la Chine. Est-ce que ça peut être dangereux de se faire transmettre ce virus-là, étant donné qu'on est toujours en contact avec des boîtes qui arrivent de Chine?
Les boîtes qui arrivent de Chine, il n'y a plus de problème pour la boîte comme telle. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, je ne sais pas. Là.
Okay.
Mais l'extérieur de la boîte, les virus, ils restent vivants à l'extérieur du corps humain pendant quelques minutes à quelques heures. comme sur des poignées de porte, sur des boîtes, comme vous avez mentionné, sur des récepteurs de téléphone. Alors, ça dure quelques heures au maximum, la contagiosité possible à l'extérieur du corps humain. Donc, je pense que vous pouvez rassurer vos facteurs.
OK. Ils peuvent, eux autres, être rassurés. Là, il y a d'autres gens qui disent que le monde paierait cher en maudit pour travailler dans ce laboratoire-là. Parce que les gens auraient peur de se faire infecter. Quelle garantie? Parce que c'est vrai, là, quelqu'un qui va travailler là, est-ce qu'il y a un risque?
Oui, bien, effectivement, c'est pour ça qu'ils vont se vêtir de combinaisons complètes. Mais c'est pas n'importe qui va travailler là. C'est des laboratoires à accès très limité. On va sélectionner les gens, leurs antécédents judiciaires vont être revus. Il va y avoir une formation complète. Par la suite, quand on va décider de les embaucher, il va falloir qu'il y ait une carte, un code d'accès. Alors, il y a des procédures de sécurité très strictes qui vont être mises en vigueur.
Présentement, il y a 40 millions de Chinois qui sont confinés, là, qui sont en quarantaine. Est-ce que c'est justifié? C'est du monde, 40 millions pour quelques dizaines de personnes qui sont mortes ou puis quelques centaines qui ont eu le virus. Est-ce que c'est pas un peu exagéré ou démesuré comme mesure préventive?
Ben moi, je trouve ça pas mal, effectivement. Je pense que le virus, il est déjà sorti de Chine, là, comme on a pu s'en apercevoir. Il y a des cas en Amérique du Nord, ailleurs en Asie. Ces procédures de confinement-là, ça marche surtout quand c'est pris très, très tôt. Là, je pense que c'était pris un peu trop tardivement, puis on peut pas confiner à grande échelle 40 millions de personnes pendant une longue durée de temps. Là. Fait que moi, je pense que ça peut ralentir la courbe épidémique, mais ça fera pas que l'épidémie va stopper. Ce qui est plus important, c'est que c'est ceux qui arrivent de Chine, dans d'autres pays, adopter des mesures strictes de santé publique, c'est-à-dire isoler les patients, retracer les contacts, ces contacts-là, les isoler.
Ils prennent leur température aussi, là, j'ai vu ça. Là, quand ils arrivent à l'aéroport, là, ils prennent leur température de toutes les personnes qui vont monter dans un avion.
Oui, qui revient de Chine. Et un questionnaire aussi. Mais ça, c'est pas sans faille. Que la preuve, c'est le patient de Seattle qui est revenu aux États-Unis. Puis quand il est passé à l'aéroport, il n'y avait aucun symptôme. Il était dans ce qu'on appelle sa période d'incubation. La période d'incubation, c'est le moment entre lequel on est infecté puis le moment qu'on développe des symptômes. Alors lui, il avait pas de symptômes, il n'y avait pas de fièvre, il n'y avait pas de toux. Quand il s'est présenté à l'aéroport, fait que il a passé dans les mailles du filet. C'est juste rendu chez lui quelques jours plus tard qu'il a commencé à se sentir mal. Donc, c'est beau le contrôle des aéroports, mais ça n'enraye pas tout, là.
OK. Je veux savoir, là, il y a eu... rappelez-vous de l'éclosion du virus H1N1. Ça a été une panique généralisée, pour pas dire mondiale. Les gouvernements ont dépensé des milliards en vaccins. Puis finalement, le virus a été quasi inoffensif. Est-ce que le même scénario pourrait encore se reproduire avec le coronavirus chinois?
Bien, moi, je pense qu'il y a une grosse différence entre le coronavirus et les virus de la grippe. Là, c'est deux familles de virus différents. Les virus de la grippe, ça se transmet beaucoup plus facilement que les coronavirus. Il reste à voir avec ce nouveau coronavirus-là, mais ce qu'on connaît des autres, le SRAS, celui du Moyen-Orient et les autres coronavirus jusqu'à maintenant, ça demande un contact étroit. Par exemple, entre des membres de la famille d'une personne infectée ou du personnel hospitalier qui prend soin d'un malade infecté. Ça demande un contact étroit pour qu'il y ait transmission entre les humains. Alors que la grippe, ça se transmet beaucoup plus facilement.
Ouais.
Le virus est expulsé par la toux, par les éternuements. Il va persister dans l'air puis il va se propager sur une plus longue distance. Donc, la transmission n'est pas la même.
Il y a un auditeur qui me demande, parce qu'on a venu de parler tantôt de la durée d'incubation, là, notamment celui qui est arrivé à Seattle aux États-Unis, qui arrivait de Chine, là, il était dans sa période d'incubation, donc il n'y avait pas de symptômes. Ça dure combien de temps, cette période-là, exactement?
Bien, on ne l'a pas déterminé encore, mais pour le nouveau virus, mais pour le SRAS, c'était en général de 2 à 7 jours. Ça pouvait aller dans les cas extrêmes jusqu'à 14 jours. C'est pour ça que si on dit que ça ressemble au SRAS, puis le code génétique de ce nouveau virus-là montre qu'il ressemble au SRAS, bien qu'il est différent, mais c'est un proche parent, un cousin. Quelqu'un qui arrive de Chine et qui a été en Chine dans les 14 derniers jours, il est à risque. Donc, on va l'intercepter au triage à l'urgence puis on va l'isoler rapidement. Donc, tout voyageur qui retourne de Chine dans les 14 derniers jours va être mis en isolement s'il y a des symptômes respiratoires tels que de la toux et aussi s'il y a de la fièvre. Quand je dis va être mis en isolement, c'est qu'il va être mis dans une chambre à pression négative, un peu comme notre laboratoire. dans lequel on travaille des virus. Là, c'est le patient qui va aller dans la chambre, dans la pression négative, aucun air qui s'échappe de la chambre.
Pour pas qu'il contamine.
Quand on rentre
personne.
Dans la chambre, on met des masques, okay. des blouses.
OK, là, je veux savoir aussi, là, vous avez dit tantôt, il n'y a pas de vaccin présentement contre le coronavirus chinois. Ça va prendre combien de temps dans des laboratoires comme le vôtre là, pour étudier le virus et être capable de produire un traitement? C'est quoi à peu près le temps que ça peut prendre?
Écoutez, dans les meilleurs des cas, là, on parle, si on passe les étapes réglementaires normales, ça prend au moins un minimum d'un an.
Hey boy, OK. C'est ça, ça se fait.
D'ailleurs, le vaccin contre la grippe qu'on donne à chaque année, on sait comment le faire, on est habitué, puis ça prend 6 à 8 mois à le produire dans la quantité suffisante.
Aïe, aïe. OK. Fait que même si on trouvait demain matin, là, même si vous mettiez au travail tout le monde sur le coronavirus, entre le moment où vous avez un vaccin puis maintenant, ça va prendre au moins encore un an. Fait que pendant ce temps-là, le virus a le temps de se propager.
Oui, mais ce qu'on peut faire dans l'intervalle, c'est de développer aussi les antiviraux. Ça va agir plus vite.
C'est quoi ça, un antiviral?
Un antiviral, c'est comme un antibiotique, mais pour les virus. Donc, ça tue. Le virus comme tel, c'est pas un vaccin, donc il fait développer des anticorps. L'antiviral, c'est une substance chimique qui va inactiver le virus.
Fait que ça, c'est plus facile puis c'est plus rapide, là.
Effectivement.
OK. Puis ça, c'est combien de temps à peu près?
Mais ça, il y en a peut-être qui marchent. Peut-être que ceux qu'on avait développés à la fin de l'épidémie de SRAS,
qu'on n'a
jamais testé par la suite, ils peuvent peut-être marcher. Fait que ça va être à essayer rapidement dans un premier temps.
Bien, docteur Boivin, merci beaucoup d'avoir rendu quelque chose qui est très complexe puis qui est très scientifique, relativement simple pour que tous les auditeurs et moi, on puisse comprendre. Merci beaucoup de partager votre savoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour, à une prochaine.
Au revoir. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent présentement pour nous parler de la série Épidémie à TVA. Le monde a l'impression que la réalité, des fois, dépasse la fiction, puis ils ont peut-être pas tard. On prend une pause là-dessus, restez là, on revient dans 2 minutes.